France Info. Bonsoir à tous. Un an seulement, il y a un an pratiquement jour pour jour, Emmanuel Macron accédait et devenait le 8e président de la 5e République. Un an plus tard, alors il y a ceux qui se félicitent des changements intervenus, d'autres au contraire qui entendent bien faire la fête à Macron. Cet anniversaire va constituer le pas de résistance de toutes les politiques ce soir, mais laissez-moi d'abord vous présenter ces invités qui ont accepté de commencer leur week-end en notre compagnie. Sarah Swahili, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Maud Gatel, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président du Modem à Paris, conseillère de Paris. Valérie Lacroute,
bonsoir.
Députée Les Républicains, vous êtes élue de Seine-et-Marne. Et à côté de vous, Valrande Saint-Just, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président du groupe Front National au Conseil Régional d'Île-de-France. Voilà. Macron, sa vie, son œuvre, c'est dans un instant. Mais on commence tout de suite par notre premier débat. C'était un peu avant 18h30, tout à l'heure, Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France KLM, annonçait sa démission, conséquence du rejet par les salariés d'un accord salarial proposé pour tenter de mettre fin au mouvement de grève qui perturbe la compagnie depuis plusieurs semaines. On écoute le président d'Air France.
13 journées de grève et plus de 2 mois de conflit ont affaibli Air France. J'ai conscience que les efforts de ces dernières années ont été un engagement de tous les salariés pour leur avenir. Certaines organisations syndicales pensent que ces efforts devraient être remboursés. C'est économiquement impossible et ce serait surtout un suicide.
Jean-Marc Janaillac, président d'Air France KLM, tout à l'heure, les salariés ont effectivement rejeté cet accord par 55% des voix, avec une forte participation de plus de 80%. C'est grave pour Air France, Maud Gatel ?
Alors d'abord, quand le dialogue social ne trouve pas d'issue positive, c'est toujours un mauvais signal. Et puis je pense que c'est un mauvais signal aussi pour le rebond de cette compagnie, qui est un fleuron français. Et malheureusement, on voit que la compagnie s'enfonce parce que le dialogue social n'a pas pu avoir lieu.
Sarah Swahili, c'est grave ?
Oui, il y a vraiment un malaise social. Il n'y a plus de discussion entre les deux parties. Aujourd'hui, on le voit bien avec cette reconduction et ce départ. Aujourd'hui, il faut agir, il faut reparler avec les salariés qui ne demandent qu'à avoir une vie digne. C'est tout ce qu'ils demandent.
Valérie Lacroute.
C'est un véritable gâchis. Moi, je connais un peu Jean-Marc Janaillac. C'est un bon patron d'entreprise qui a toujours su dialoguer. Et là, on peut vraiment se poser la question de savoir s'il n'y a pas une réelle déconnexion entre les intérêts de certains syndicats et la réalité de l'entreprise. On sait que cette entreprise, il fallait qu'elle sorte de cette situation, parce que la concurrence est rude, on le sait bien, à l'international, avec les compagnies du Golfe, avec les compagnies low cost. Et il était essentiel, et Jean-Marc Janaillac a mis sa présidence en jeu au travers référendum.
Ce référendum, le résultat de ce référendum a surpris tout le monde.
A surpris tout le monde et je pense qu'il avait, c'est un homme passionné, il avait mis sa présidence en jeu en espérant peut-être que les salariés allaient rester connectés à la réalité du terrain. Et je pense que les syndicats, les quelques syndicats d'ailleurs, il a dit quelques syndicats, ont pris la main sur la situation de cette entreprise et pour moi c'est un vrai gâchis.
Valrande Saint-Just.
Ce qui est étonnant, ça fait 30 ou 40 ans qu'on vit dans ces grandes entreprises qui ont été des entreprises publiques, on peut faire le parallèle avec la SNCF, on a l'impression d'une absence totale de dialogue social, et puis régulièrement des éruptions, les syndicats, la direction propose quelque chose, les syndicats sont furieux, ça se termine par des grèves, des jours de grève, et une catastrophe pour l'entreprise. Alors c'est un peu l'ancien monde. Pourquoi est-ce que le monsieur Macron...
Vous parlez comme Emmanuel Macron.
Mais oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron et le gouvernement, ils sont là quand même pas depuis un an, ont laissé ainsi la situation se pourrir à la SNCF ou à Air France, pour qu'on retrouve ces pratiques que nous connaissons depuis 30 ou 40 ans, qui chaque fois font régresser des entreprises qui perdent énormément d'argent. Alors, vous avez dit que le dialogue social n'existait plus. Je ne sais pas du tout si M. Janaillac, quand on voit le résultat, je ne sais pas du tout s'il a eu raison de présenter ce référendum et de mettre en balance sa démission, parce que il a squeezé comme ça le dialogue social. Il présente un référendum qui est évidemment assez brutal et assez binaire, comme tout référendum. Et puis voilà, il se retrouve avec un résultat qu'il n'attendait pas. Il est obligé de partir. L'entreprise est décapitée. Hein, et elle est dans une situation où elle a perdu 300 millions d'euros. Voilà le gâchis. Merci, le gouvernement. Je ne sais pas, Monsieur Jeannin,
je ne sais pas si c'est
pas.
Gouvernement.
Sarah
Swahili, est-ce que c'est une victoire pour les syndicats ce soir?
Non, il n'y a pas de victoire. Aujourd'hui, il y a une demande qui est l'augmentation des salaires. On nous explique que le plus petit salaire aura une augmentation de 260 euros par an. C'est pas 260 euros par an qu'il faut augmenter, c'est 260 euros par mois pour des salariés qui gagnent 1100 ou 1200 euros et qui galèrent tous les jours, qui font les efforts demandés.
Il n'y a pas que des gens qui galèrent quand même à France.
Il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes. Attendez,
la plupart des pilotes,
les salariés ont des conditions de travail qui ne sont pas respectables dans notre pays. Et ils demandent aujourd'hui une augmentation des salaires qui est normale. Aujourd'hui, ils ont eu une baisse des salaires ou des gels de salaires qui ne sont pas normales quand on sait que l'Air France a eu plus d'un milliard et demi de recettes en 2017.
Maud Gatel.
Non, je peux pas vous laisser dire ça. La compagnie n'a pas su prendre un tournant à un moment extrêmement important en matière de le secteur concurrentiel de l'aviation est très important. Jean-Marc Janaillac, et là je vous rejoins absolument, est un homme absolument passionné et qui avait vraiment une stratégie pour l'entreprise qui a mis son va-tout sur le sujet.
Il a raté son coup, mais à la fin,
tout le monde perd. Et ce sont les salariés et cette compagnie.
Peut-être que le gouvernement aurait dû l'accompagner, peut-être.
Mais oui, le nouveau monde.
Oui. Je le vis à l'Assemblée nationale.
On est toujours dans des pratiques d'il y a 25 ans, 30 ans, avec encore une fois cette absence de dialogue social perpétuel dans ces grandes entreprises publiques, semi-publiques, et des éruptions régulières. Alors les usagers qui en prennent plein la figure, hein. Les usagers du rail, notamment en Île-de-France, à l'heure actuelle, c'est extraordinairement pénible.
Bon, alors là, on est reparti sur la SNCF.
Une
chose est sûre, va reparler dans toutes les politiques d'Air France dans les jours qui vont venir. C'est une évidence. Il est 21h10 sur France Info. C'est l'heure de l'info avec Diane Ferchit.
La démission du PDG d'Air France ce soir. Jean-Marc Janaillac a lié son sort au résultat de la consultation des salariés. Consultation sur les propositions salariales de la direction. Elles ont été rejetées par 55,44% des salariés de l'entreprise. Ce vote est le résultat d'un malaise, estime Jean-Marc Janaillac. Il évoque un gâchis à propos de la grève et espère qu'Air France saura se donner les moyens de son rebond. Des cheminots ont brièvement envahi le siège de la République en marche dans le second arrondissement de Paris. Cet après-midi, ils sont ressortis dans le calme à l'arrivée des policiers. Le trafic reviendra progressivement à la normale demain matin. Après ce 7e épisode de grève, il prendra fin peu avant 8h demain. Le taux d'agents grévistes s'établissait aujourd'hui à 17,12%. 7 ans et demi de prison pour l'agresseur de marin. Décision de la cour d'assises des mineurs de Lyon. L'agresseur avait 17 ans au moment des faits en novembre 2016. Marin s'était interposé pour prendre la défense d'un couple qui s'embrassait. Le jeune homme avait été violemment frappé sur la nuque et laissé pour mort. 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris demain. Ils encadreront la fête à Macron, une manifestation à l'initiative du député insoumis François Ruffin. Un dispositif qui sera plus important que celui du 1er mai. 1500 hommes étaient mobilisés ce jour-là. À Calais, une cinquantaine de migrants ont attaqué une patrouille de CRS armée de bâtons et de pierres. Ils les ont encerclés dans la zone industrielle à 500 mètres de l'ancienne jungle. Deux CRS ont été légèrement blessés, un véhicule endommagé. Les renforts envoyés sur place ont fait usage de gaz lacrymogène.
France Info. 21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
On parlait d'Air France il y a quelques instants, on va changer de petit nuage pour parler maintenant de cet anniversaire. Puisqu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, Emmanuel Macron arrivait au pouvoir. Tenez, souvenez-vous.
Merci mes amis. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France. Je sais cette ferveur que vous portez. Je sais ce que je vous dois. Vive la République! Vive la France!
Voilà, Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre, c'était le 7 mai 2017, juste après sa victoire. Alors, Odoxa et Dentsu Consulting ont réalisé une enquête pour France Info et Le Figaro sur Emmanuel Macron, un an donc après. Premier enseignement, près d'un Français sur deux, 48 contre 52, a une bonne opinion de lui. C'est peut-être pas si mal, finalement, dans un pays, on sait, qui aime étrier ses présidents de la République. Valérie Lacroute, est-ce que vous diriez qu'il a réussi sa première année au global ?
Je ne vais pas dire qu'il a réussi. Par contre, vous effectivement,
faites partie des Républicains.
Oui, voilà. Donc, c'est quand même difficile pour moi de dire qu'il a réussi. Je dirais que la séquence à l'international est effectivement assez intéressante. Bon, même si on y reviendra tout à l'heure. En revanche, voilà, et en même temps, peut-être que, parce que c'est la formule un peu à la mode, je dirais qu'au niveau national, et pour le vivre à l'Assemblée nationale au quotidien, il a ouvert tous les chantiers avec une visibilité qui est assez difficile à comprendre, aussi bien au niveau économique qu'au niveau financier, qu'au niveau fiscal. Là, vous voyez, on a plusieurs textes qui arrivent les uns à la suite des autres à l'Assemblée nationale avec des examens en commission à la même heure, commission des finances, commission des affaires culturelles.
Il y a beaucoup de travail à l'Assemblée. Voilà.
Oui, mais ça, c'est, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Sauf que quand on a un télescopage de telle sorte de tous les textes et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis, avec, puisque moi je suis à la commission des finances, hein, sur la réforme fiscale, je dirais que l'épisode, après un an, au niveau national, peut mieux faire et avoir.
Maud Gatel ?
Alors moi, ce que je retiens depuis un an déjà, c'est qu'il a réussi à rompre cette alternance automatique entre la droite et la gauche et à renverser un petit peu le système tel qu'on le connaissait depuis 30 ans. Et pour moi, c'est évidemment quelque chose qui va dans le bon sens et on le voit.
Parce que vous êtes du MoDem, vous voulez dire aussi, voilà.
Le MoDem, deuxième pilier de la majorité, effectivement. Mais je pense que les Français lui savent gré de faire ce qu'il dit. Alors selon un rythme effectivement extrêmement dense, peut-être dont on n'avait pas été habitué auparavant, mais pour le mieux, puisqu'on a quand même un certain nombre de réformes, de la moralisation de la vie publique à la loi contre le terrorisme, qui, je pense, répondent aux aspirations et aux attentes des Français.
Sarah Swahili, il est majoritairement perçu comme compétent. Est-ce que c'est votre appréciation également ?
Ben, il est compétent comme président qui mène une politique ultralibérale. Il a aujourd'hui réussi à choisir son camp. Après un an, on voit qu'il a choisi le camp de la droite. C'est voilà un choix.
On va y revenir.
Ouais, il a clairement réussi à choisir son camp et je le félicite. Nous, on le savait depuis très longtemps. Il stigmatise toujours les plus faibles. Il demande des efforts à toujours aux mêmes personnes. Réforme après réforme. Et aujourd'hui, il banalise la précarisation en France et on dit stop à ce monde qui n'écrase toujours les mêmes personnes.
Rien ne trouvera grâce à vos yeux ?
Non. Moi, je suis une patriote. S'il y a des réformes qui me semblent bonnes pour mon pays, bien évidemment que je ne serai pas hypocrite et que
mais
je
là, dirais, aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est zéro pointé.
C'est aujourd'hui, vraiment, il mène la politique qu'il avait annoncée, c'est-à-dire il mène une politique libérale. Il avait annoncé, il n'y a pas de surprise, à part pour certains, moi, ça ne me choque pas, une politique libérale sociétale qui n'était pas prévue par certains et nous l'avions prévue, nous, la France Insoumise.
Valérie Saint-Just, zéro pointé.
C'est le moment de rappeler qu'il a été élu par 20 millions de voix environ, dont certainement la vôtre d'ailleurs.
Hein. Mais vous n'en savez rien du tout. Donc, écoutez, vous êtes Madame Irma maintenant.
Rappelez-vous,
vous avez eu une boule de cristal. Vous savez ce que j'ai voté derrière.
La France Insoumise a eu des.
Oui, mais enfin bon.
Le secret du vote.
Sur ces 20 millions de voix, il n'y en a que 10 qui votent vraiment pour lui et 10 autres qui votent pour que Marine Le Pen ne soit pas présidente de la République. Donc il est très mal élu, en réalité, Emmanuel Macron. Et il devrait s'en souvenir.
Vous lui faites un procès en illégitimité ?
Ah non, il est président de la République, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les chiffres ont parlé, si vous voulez. Mais quand même, on sait qu'il n'y a que 10 millions de Français qui ont vraiment voté pour lui au deuxième tour, parce qu'ils adhéraient, c'était les seuls qui adhéraient vraiment à son programme. en plus son programme, si vous voulez, contrairement à ce que vous pensez, mais bon, moi je suis quand même très déçu. Ces réformes, Varoufakis disait, il avait raison d'ailleurs, Emmanuel Macron pour la com, champion, mais sur le fond, à peu près zéro. Alors sur la com, ça oui, c'est formidable. Il nous bombarde presque tous les jours, enfin vous qui siégez, vous le voyez bien,
oui, oui.
Presque tous les jours, de projets de réformes qui sont relayés médiatiquement, etc. Mais dans la réalité des faits, il n'y a presque rien. Quelle est la vie vraiment à changer? Rien du tout.
Si, pour les retraités,
encore une fois, moi je dénonçais l'ancien monde à la SNCF ou à Air France, mais c'est un peu encore dans tous les compartiments du jeu comme ça. On attend toujours Emmanuel Macron. Pour le moment, moi, à mon sens, il n'a pas fait grand-chose malgré ses rotomontades. Voilà.
Sarah Satouali, vous disiez que il avait clairement choisi le camp de la droite. Le, en même temps, résiste plutôt bien dans ce sondage. 50% des personnes interrogées estiment que sa politique est autant de gauche que de droite. C'est une surprise pour vous ?
Ben oui, parce que on le voit très bien. Monsieur disait qu'il n'a pas fait grand-chose. Je trouve qu'il a fait beaucoup de choses. Il a augmenté la CSG pour les retraités, il a baissé les APL, il a mis une sélection à l'université, une sélection sociale. Il en a fait des choses, mais toujours contre les mêmes personnes. Toujours, il stigmatise toujours les mêmes personnes. Il fait des réformes toujours contre les mêmes personnes. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le président des riches, voire des très riches, comme tout le monde l'annonce.
Maud Gatel.
Je trouve intéressantes les références de Monsieur de Saint-Just, comme quoi finalement il y a parfois une convergence étonnante. Non, il a fait énormément de choses, Emmanuel Macron, depuis son arrivée, à la fois en matière de pouvoir d'achat, et je pense que c'est quelque chose aussi d'important, qu'on n'a pas suffisamment dit, à la fois pour...
Vous ne l'avez pas dit parce que ça ne se voit pas. Enfin,
ah bon. Bah quand même, je pense que la revalorisation des petites retraites, l'allocation pour les adultes handicapés, la suppression de la taxe d'habitation, tout ça...
À la suppression de la taxe d'habitation, on va, pour l'instant, on n'y est pas.
Oui, et alors puis, compte, je vous rappelle que c'est juste...
Hein.
C'est jusqu'à la fin
du mandat. Promesse de campagne qu'il a fallu qu'il tienne, et malheureusement, ça va être compliqué pour lui de tenir cette réforme.
Il la tiendra, il l'a annoncé, simplement, ça va s'échelonner jusqu'à la fin de son quinquennat, ce qu'il a annoncé depuis le départ.
Il va falloir qu'il trouve 9 milliards pour compenser les 20%, puisqu'en 2020, vous savez que la taxe d'habitation sera supprimée pour tout le monde. Il va falloir qu'il trouve 9 milliards d'euros supplémentaires pour financer cette suppression de la taxe d'habitation.
Donc là, Valérie Labrousse, il mène une politique de droite?
Sur certains sujets, oui. Il mène, d'ailleurs, on l'a vu encore, cette annonce hier sur l'exit tax.
Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir.
C'est-à-dire l'exit tax qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy,
oui,
donc
mais qui
une politique de droite qui remet en cause...
Qui permettait de lutter contre les...
C'est une politique de droite qui augmente les impôts, mais ça a toujours été comme ça aussi, c'est vrai.
Voilà, et c'est vrai qu'il mène une politique... Alors, sur certains sujets, on le reconnaît, d'ailleurs à l'Assemblée, ça nous arrive de voter avec le gouvernement, avec la majorité, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de mesures sur lesquelles nous approuvons. En revanche, taxer les retraités, notamment la CSG, instaurer le prélèvement à la source qui va rien amener, sauf rajouter du travail pour les petites entreprises alors qu'elles n'avaient rien demandé. Voilà, on a toute une série de mesures sur lesquelles on ne partage pas du tout sa politique.
Allez, on laisse passer l'info, il est 21h20 sur France Info, Diane Verschit.
Les syndicats d'Air France estiment leur légitimité renforcée ce soir. Les salariés de l'entreprise ont rejeté l'accord salarial proposé par la direction à 55,44%. Et conséquence, le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, démissionne. Il s'y était engagé. Il remettra sa démission dans quelques jours. L'intersyndical maintient son préavis de grève pour lundi et mardi, 14e et 15e jour de grève depuis février. Les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer la bibliothèque de Sciences Po Rennes. Une vingtaine d'étudiants opposés à la réforme de l'accès à l'université voulaient l'occuper. Le blocage de l'université Paris 8 Saint-Denis a été reconduit en AG. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm rouvrira quant à elle ses portes lundi. Un dispositif d'ampleur sera mis en place demain à Paris pour encadrer la manifestation dite « Fête à Macron ». Le préfet de police va déployer 2000 policiers et gendarmes. Ils étaient 1500 le 1er mai. Les organisateurs prévoient eux un service de sécurité d'environ 150 personnes. Une mobilisation devant le tribunal de Lyon en soutien à Moussa, jeune militant homosexuel de l'association AIDS. Il comparaissait ce soir pour avoir refusé d'embarquer à bord d'un avion qui devait le ramener vers la Guinée, son pays d'origine. Sa demande d'asile en France a été refusée. En Guinée, l'homosexualité est punie de 3 à 7 ans de prison. Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie, deuxième jour de son déplacement. Dans une interview à Nouvelle-Calédonie, la première, le président de la République s'est exprimé sur le référendum du 4 novembre prochain, référendum sur l'indépendance de l'archipel. L'un des enjeux est de garder l'unité, estime Emmanuel Macron. Les uns et les autres auront à travailler ensemble, quelle que soit l'issue.
France Info. 21h-22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Et on continue à parler du bilan d'Emmanuel Macron. Odoxa et Dentsu Consulting ont réalisé une enquête pour France Info un an après son arrivée au pouvoir. Et on va parler de son image maintenant. Il est perçu pour les trois quarts des Français, 72% exactement, comme un président des riches. C'est notamment ce que pense cette jeune femme proche de la France insoumise qui a posté cette lettre à l'adresse du président de la République. Écoutez cet extrait.
Cher Emmanuel Macron, je vous écris depuis en bas. Depuis cette France des déclassés, des oubliés, des cassés par le système que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais connu. Je suis cette menumonier du système où vous trônez et je fais certainement partie de ces personnes qui ne sont rien.
Voilà, extrait de cette lettre sonore. Ce que nous dit cette enquête aussi, c'est que sociologiquement, il existe bien une fracture profonde entre deux France, dans la France d'Emmanuel Macron. Fracture entre cette France d'en haut qui adore Macron et cette France d'en bas qui ne le supporte pas. Est-ce que ce n'est pas explosif à terme, Aude Gatel ?
Alors qu'il y ait une fracture au sein du pays, ça je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour en témoigner. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de cette jeune femme.
Avec le sondage.
Et le sondage est très partagé. Hein.
Non, 72% des Français qui estiment que Emmanuel Macron est le président des riches.
Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas, d'ailleurs, que les Français le croient. Et ça se verra.
C'est plutôt une fracture, je dirais, entre le monde rural et le monde urbain.
Non.
Qui ressort.
On le voit bien à travers des différentes mesures. Avec du côté des gens qui aiment Macron, c'est les gens des centres-villes, des gens âgés.
Les urbains, les métropoles. En revanche, dans le monde rural, et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'actions, que ce soit l'augmentation du diesel pour des gens qui n'ont pas le choix en milieu rural que de prendre leur voiture, c'est quand même un coût. La limitation à 80 km/h, sincèrement, cette mesure, elle fait d'ailleurs débat. Et vous regarderez, les présidents de département s'y opposent aussi et elle rajoute de la difficulté au monde rural. Et on le voit bien, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on est en train de trouver ce clivage entre le monde rural et le monde urbain. Finalement, une France à deux vitesses. Et c'est pour ça que ressort cette image que c'est un président des riches, voire des très riches, avec la dernière décision qu'il a prise hier.
Valente Saint-Just.
Alors je trouve, moi, d'abord, c'était Marine Le Pen qui avait porté, pendant la présidentielle, notamment au deuxième tour, la voix de la ruralité, des territoires, de l'électorat populaire,
nous aussi,
etc.
Les Républicains, etc. Nous sommes très attachés au rural.
Oui, d'accord, mais elle était au deuxième tour.
Tout le monde aime la campagne.
Je le rappelle. Je trouve que là, c'est un véritable échec pour Emmanuel Macron. Un vrai échec. Moi, je me souviens de Sarkozy et de ses réformes fiscales du mois de juillet et du mois d'août de la première année dès qu'il avait été élu. Ça l'a suivi pendant tout son quinquennat.
Le bouclier fiscal
l'a suivi pendant tout son quinquennat. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre que cette fracture existe vraiment, qu'elle s'élargit de plus en plus, et comment est-ce qu'ils ne... Leur première mesure, dès qu'ils sont élus, c'est un peu un mystère pour moi, n'est pas d'essayer de résorber cette fracture, de réconcilier ces deux France. Alors, il supprime l'exit tax, j'ai bien compris, Monsieur Macron, il veut supprimer l'exit tax. Bon, qu'il y ait moins d'impôts pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les particuliers.
Il l'a déjà fait dans la loi de finances 2018.
Mais il agit de façon extraordinairement maladroite. Et c'est ça qui donne les 75%, d'ailleurs. Les gens voient exit tax pour les gens qui sont exilés, qui sont les plus riches que nous connaissons. Et en même temps, cette hausse de la CSG, où il assume, et où Édouard Philippe assume, en disant, nous assumons d'aller chercher de l'argent auprès des retraités les plus humbles. Ok, d'accord, très bien, vous assumez. Mais c'est un peu n'importe quoi. Et c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Je pense que là, c'est un vrai échec et que pour la suite du quinquennat, ça va devenir presque dangereux parce que la France est un pays un peu en ébullition et qui ne supporte pas ce genre de trop grande inégalité criarde.
Sarah Swahili, deux France qui s'opposent, deux France qui sont irréconciliables aujourd'hui dans la France d'Emmanuel Macron ?
C'est vrai que c'est deux mondes qui s'affrontent, un monde libéral et un monde plus juste, plus social. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron veut faire accepter aux Français ses réformes, il va devoir se montrer plus juste dans la répartition des efforts. Et aujourd'hui, c'est toujours aux mêmes qu'on demande, à qui on demande de faire les efforts. Les retraités, on augmente la CSG des retraités. Les retraités, il faut savoir que c'est eux
pas les plus modestes.
Attendez,
hein.
Mais les retraités consomment dans notre économie, ils épargnent, alors que les 3,5 milliards faits comme des cadeaux faits grâce à l'ISF, on ne sait même pas si elles vont retourner dans l'économie. C'est vraiment un choix libéral assumé. Et Emmanuel Macron s'en est pas caché hier, il s'en cache pas aujourd'hui. Il y a rien de nouveau.
Aude Gatel.
Non, je
ça vous laisse sans voix.
Non, ça ne me laisse pas sans voix, mais alors d'abord que la France insoumise défende les retraités qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, je effectivement les bras m'en tombent un petit peu. Après je rappelle aussi que la hausse de la CSG qui pèse sur, c'est vrai, les retraités, mais pas les retraités les plus modestes, puisqu'il y a un filet de sécurité qui a été mis en place, bénéficie aussi en échange aux salariés qui travaillent.
Oui. Et on va vous laisser le temps de reprendre votre souffle à tous. On va laisser passer la météo et l'info, et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Tout est politique.
France Info, partenaire officiel de la Fédération Française de Handball, vous invite à une journée 100% handball. Rendez-vous le samedi 5 mai à l'Accor Hôtel Arena pour vivre les finales de Coupe de France de Handball. Au programme, 6 finales, de nombreuses animations et une affiche exceptionnelle. L'USAM Nîmes défie les stars du PSG Handball pour la finale nationale masculine. Info et réservations, ff-handball.org ou sur franceinfo.fr.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Élodie Calac à Météo France.
Un week-end aux allures estivales, mais encore contrasté. Sur la moitié sud, ce sera variable, de belles éclaircies. On aura malgré tout plus de nuages le matin entre le sud-ouest et le massif central, avec des averses des Pyrénées vers le Roussillon et le Tarn, mais aussi sur l'est de la Corse. L'après-midi, c'est des Cévennes vers PACA et le sud des Alpes qu'on trouvera nos averses avec un risque d'orage. En allant vers le nord, le soleil sera au rendez-vous. Un peu de grisaille vers les côtes nord de la Bretagne ou alors l'intérieur de la Normandie, le sud de l'Alsace, mais ça ne durera pas. Quelques petits nuages inoffensifs concerneront le nord-est. Le thermomètre va grimper, 17 degrés au Havre et à Pau, 20 à Toulouse, 24 degrés à Nancy, Paris, Bourges, La Rochelle, 26 à Strasbourg, Grenoble et Montpellier. Dimanche, un temps ensoleillé et chaud avec 20 à 28 degrés. Ça restera instable en montagne et dans le sud-est avec quelques averses et parfois de l'orage.
Vous écoutez France Info, il est très précisément 21h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, c'est avec Frédéric Beniada.
C'est un tsunami pour Air France. Jean-Marc Janaillac démissionne après le rejet par les salariés de l'accord salarial proposé par la direction. Ils ont dit non à 55,44%. Le taux de participation est élevé, 80%. Le président d'Air France avait mis son mandat en jeu. Il remettra sa démission au conseil d'administration d'Air France KLM dans les prochains jours. J'assume les conséquences de ce vote, a déclaré Jean-Marc Janaillac, regrettant un immense gâchis. Ce soir, les syndicats estiment leur légitimité renforcée. Le gouvernement en appelle au sens des responsabilités de chacun. Ce soir, Raphaël Caccia de la CFDT Air France prend acte de cette situation, mais il en redoute les conséquences pour l'avenir.
Aujourd'hui, les salariés se sont exprimés. Ils se sont exprimés en faveur du non, de manière majoritaire, 55%. Donc la CFDT entend la décision des salariés, mais ce qui envoie l'entreprise dans une très grosse crise de gouvernance. Jean-Marc Janaillac n'est pas le patron que d'Air France, il est le patron du groupe Air France KLM. Et ça va plonger le groupe Air France KLM dans une incroyable difficulté et une crise majeure dont les conséquences, on n'est pas capable à l'heure actuelle de les voir.
À la SNCF, retour à la normale demain, le mouvement s'essouffle, le taux de grévistes n'a jamais été aussi bas cet après-midi. Des dizaines de cheminots en colère ont envahi le siège parisien de La République En Marche avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Des cheminots qui participeront demain à la fête à Macron, manifestation de la France Insoumise contre la politique du chef de l'État. Les forces de l'ordre craignent des débordements, comme lors de la manifestation du 1er mai. La préfecture de police promet le déploiement de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires. L'agresseur du jeune marin, laissé pour mort en 2016 après avoir défendu un couple qui s'embrassait à Lyon, a été condamné ce soir à 7 ans et demi de prison par la cour d'assises des mineurs. La cour a retenu l'excuse de minorité, réduisant de moitié la peine maximale encourue, peine qui avait été réclamée par l'avocat général et les parties civiles. Marins et ses parents ont exprimé leur consternation à l'énoncé du verdict. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Nouvelle-Calédonie, 30 ans après les affrontements meurtriers entre militaires et indépendantistes, 6 mois du référendum sur l'indépendance. Le chef de l'État a appelé aujourd'hui à l'unité. Emmanuel Macron, qui sera par ailleurs reçu fin juin par le pape François. C'est ce qu'indique ce soir le Vatican, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire catholique La Vie. Les places financières, la Bourse de Paris termine la semaine sur une hausse de 0,26% à 5516 points.
Tout est politique, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie ce soir de Sarah Soily, porte-parole de la France Insoumise, Maud Gatel, présidente du Modem à Paris, Valérie Lacroute, députée Les Républicains, Valérand Saint-Just, président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Alors on continue à commenter cette enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, sondage sur l'image d'Emmanuel Macron un an après son arrivée à l'Élysée. Alors vous nous avez dit globalement beaucoup de mal d'Emmanuel Macron durant cette première demi-heure, sauf évidemment Maud Gatel du Modem. Parlons peut-être de son image à l'étranger. Emmanuel Macron est effectivement un sujet majeur sur les réseaux sociaux depuis maintenant un an. 50 millions de messages postés, dont 20 millions à l'étranger. Et tenez, écoutez ces réactions de journalistes étrangers. Macron, vu du monde arabe, des États-Unis et d'abord d'Allemagne.
Il est jeune, il est beau, il est frais, il veut quelque chose de différent.
Dans le monde arabe, il est attendu sur beaucoup de dossiers. Il séduit parce qu'il a une volonté de changer et d'innover.
Les anti-Trumpistes l'adorent. Il est pour l'ouverture, pour les échanges internationaux, contre les murs, pour les efforts pour le climat, contre le repli. Bref, il est optimiste et les Américains aiment bien ça.
Valérand Saint-Just, est-ce que vous trouverez tout de même un point, vous donnerez un point positif à Emmanuel Macron sur la politique étrangère ?
Moi, j'ai regretté qu'Emmanuel Macron, pour la seule action concrète qu'il ait faite en matière de politique étrangère, se soit soumis aux États-Unis pour aller frapper la Syrie il y a quelques semaines.
Mais même aux États-Unis de votre ami Donald Trump ?
Ah, notre ami Donald Trump, c'est pas spécialement notre ami. Quand il a été élu, on s'est dit, tiens, celui qui était seul contre tous, contre tous les pouvoirs, etc., a été élu, bon, c'est plutôt sympathique. Mais sur le plan de la politique étrangère, notamment de l'attitude vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'attitude vis-à-vis du monde arabe, nous sommes quand même très dubitatifs sur cette politique étrangère de Donald Trump. Et nous avons été déçus qu'Emmanuel Macron mette ses pas dans celui des États-Unis, peut-être pas de Donald Trump, mais du complexe militaro-industriel américain et de l'OTAN. Voilà ce que je peux dire sur la politique étrangère, à part qu'il se soit fait un peu moquer par Donald Trump aussi, c'était drôle, avec les pellicules en disant « he's going to be perfect, he will be perfect ».
Sarah Soily, est-ce que au niveau de la politique internationale, vous trouvez quelques atouts à Emmanuel Macron ? Parce que les étrangers l'adorent.
Il adore, comme ça vient de une jeune femme le disait, c'est peut-être parce que voilà, apparemment il serait beau, il aurait des beaux yeux bleus. Non, je me fâche avec personne. Ah, voilà, donc Voilà, c'est le seul point positif que voilà je donne, c'est peut-être ses qualités physiques.
Mais c'est,
physique.
Vous, c'est mais vraiment ce que vous pensez, vous êtes enfermé dans, dans des postures politiciennes.
Non, c'est pas des postures. Et je tiens à préciser que au début de l'année, il s'est fait traiter de bonapartiste par le New York Times. Donc il faut aussi montrer. Voilà, mais non, mais attendez, faut montrer aussi que c'est une opinion et que c'est pas un fait. Voilà, et aujourd'hui, il faut aussi expliquer que ces idées libérales gagnent ces territoires-là, ces pays-là. Et aujourd'hui, la France résiste, et c'est pour cela que voilà, on a deux sons de cloche.
Valérie Lacroute.
Moi, je pense qu'il fallait de toute façon qu'il aille à l'étranger. L'image que la France avait à l'international avec son prédécesseur, elle était quand même pas très brillante. Donc, je pense qu'il y avait une nécessité, effectivement, à les déjà rencontrer, puisque nouveau président de la République, il a besoin, effectivement, d'échanger avec ses partenaires internationaux et de se confronter sur un certain nombre de sujets politiques. Moi, en revanche, ce qui me gêne, c'est que la France, je ne vais pas dire qu'elle est à feu et à sang, mais quand on voit les images du 1er mai, d'avoir un président de la République qui est absent le jour du 1er mai...
Il pouvait décaler, pas deviner...
Oui, quand même, mais le 1er mai, c'est un symbole pour la France, on le sait bien.
Vous venez de dire que c'est important qu'il aille à l'étranger, puis
mais il pouvait décaler d'une journée. Enfin, je gère pas son planning, mais très sincèrement, je pense qu'il y a, des symboles en France où il est important que le président de la République soit là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il décalait son voyage. Alors après, j'ai pas tout le détail, mais
c'est
d'une
pas
journée.
Si les Ford et Halles, on peut venir le voir.
Voilà, je pense que les enjeux sont importants et on le voit bien. Et d'ailleurs, vous avez vu les images du 1er mai des hommes cagoulés. Enfin, le nombre était quand même relativement important. Et du coup, on se retrouve demain, voilà, à avoir des forces de l'ordre en nombre exceptionnel
pour la fête à Macron. On va parler dans quelques
donc
minutes.
Je pense qu'il est, on le sent quand même un peu déconnecté des problématiques de la France.
Mais avant, Maud Gattel va quand même voler au secours de la politique étrangère d'Emmanuel Macron.
Naturellement, mais je pense que je ne suis pas la seule. Je considère que les Français ont retrouvé aussi une certaine fierté avec leur président par rapport à sa politique internationale.
D'aller à l'étranger, son prédécesseur était quand même...
Par rapport à François Hollande, ben c'était pas très difficile de faire mieux.
Et il fallait.
Je ne sais pas si c'était pas si peu difficile. En tout état de cause, il a remis la France au centre du jeu de la scène internationale, avec des déplacements qui ont été salués en Allemagne, son premier déplacement.
Est-ce que nous pouvons parler un instant de ses relations avec l'Allemagne et avec Mme Merkel? Pour le moment, il fait de gros efforts. Il a raison, d'ailleurs, parce que c'est un sujet extrêmement pointu, mais ses efforts, il n'est pas complètement responsable. Cette situation allemande est très difficile, mais c'est complètement voué à l'échec pour le moment. La reconstruction européenne, à travers un renouveau du lien franco-allemand, il n'y arrive pas.
Laissez parler un petit peu Maud Gattel.
Excusez-moi.
Non. Il a remis la France au centre du jeu. Oui, c'est la relation franco-allemande, elle est compliquée, mais au niveau de la situation personnelle d'Angela Merkel dans son pays et le volontarisme dont il fait preuve pour relancer la construction européenne, je pense que c'est avec ce volontarisme-là qu'on pourra faire bouger les choses. Après, il a remis la France au centre du jeu international avec des visites extrêmement commentées, appréciées, dans ses premières semaines de mandat, il a eu des initiatives extrêmement fortes aussi sur la défense des accords de Paris. Et je pense que la voix de la France, dans ce cadre-là, est écoutée et entendue.
21h40, tout est politique sur France Info. On se retrouve dans quelques instants, juste après l'info présentée par Diane Verschiet.
Après 3 jours de procès, l'agresseur du jeune marin est condamné à 7 ans et demi de prison par la cour d'assises des mineurs de Lyon. En 2016, Marin avait été laissé pour mort après avoir défendu un couple qui s'embrassait dans la rue. Le procès se tenait à huis clos. L'agresseur était mineur au moment des faits. Jean-Marc Janaillac évoque un gâchis ce soir alors que les propositions salariales de la direction d'Air France ont été rejetées par plus de la moitié des salariés. Le patron d'Air France va démissionner. Il avait lié son sort au résultat de cette consultation. Les préavis de grève pour lundi et mardi sont tout de même maintenu. Après la polémique sur le dispositif policier du 1er mai, 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris. Demain, ils encadreront la fête à Macron. Une manifestation à l'initiative du député insoumis François Ruffin. Elle partira d'Opéra à midi pour rejoindre la place de la Bastille. Et un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les 3/4 des Français le perçoivent comme un président des riches. C'est ce que révèle un sondage au Doxa d'Enso Consulting pour France Info. Et ce sont les sympathisants de gauche qui sont les plus catégoriques dans cette vision. 84% pour les proches du PS, 89% 5% pour ceux de la France insoumise. Plus de 400 Palestiniens blessés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils poursuivaient leur manifestation du vendredi, 6e mobilisation consécutive pour demander le retour des réfugiés palestiniens. Les soldats israéliens ont fait usage de gaz lacrymogène et ont tiré sur la foule à balles réelles.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Et on a longuement évoqué cette enquête sur l'image d'Emmanuel Macron, sa politique un an après son accession au pouvoir. Parlons maintenant peut-être d'un autre hommage, celui préparé par la France Insoumise. Cela s'appelle la fête à Macron. C'est le député insoumis François Ruffin sur Twitter qui nous donne le programme.
Je sais qu'il y aura un concert debout, justement, orchestre debout, un hymne pour la fête à Macron. Soviet suprême, ils sont d'accord. Ils ont dit à Guillaume, on arrive à 16h50, gare de Lyon, t'inquiète, on sera à 18h à Bastille sur ton camion, il n'y a pas de problème. Et puis t'inquiète pas pour la sono, on va mettre le feu. Oui, mettre le feu pour Gérard Collomb, c'est au figuré. Il s'agit juste de dire qu'il va y avoir de l'ambiance, tu vois.
Voilà, François Ruffin depuis sa superbe cuisine à carreaux. Alors, on a beaucoup glosé depuis 3 jours sur ce rassemblement, son nom, sur son ton peut-être irrévérencieux. Ça vous gêne, Valérie Lacroute ?
Le nom de cette manifestation, je trouve que c'est un peu comique. Moi, je pense qu'il a, François Ruffin, il a intérêt à ce que cette manifestation se passe le mieux possible. Parce qu'ils sont quand même, vous me permettrez, un peu dans la caricature. Et à l'Assemblée nationale, c'est pareil, dans l'excès.
Et là, je pense... Les copains de Sarah Swaly ?
Oui, porte-parole de la France Insoumise, donc je m'adresse effectivement aux porte-paroles. Je pense qu'il faut absolument que cette manifestation soit réussie pour que la France Insoumise soit pas seulement dans la caricature, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est
la
toujours le cas.
N'est pas dans
et donc
la
j'espère pour vous que
si.
Cette manifestation demain
non, madame,
se passera
pas
dans la bonne humeur, parce que rien que le titre de cet événement, on peut espérer que ce soit.
C'est aussi au ministère de l'Intérieur et au préfet d'assurer la sécurité des citoyens. Nous avons mis en place aussi deux services d'ordre. La France Insoumise n'est pas caricaturale. Si être caricaturale, c'est défendre les retraités, défendre les salariés,
on
n'est pas caricatural, on défend les moins riches, ceux qui ne sont rien pour Macron. Les riens seront dans la rue demain et les riens seront un jour tout.
Maud Gatel, cette manifestation, elle représente quand même un danger pour Emmanuel Macron ?
Alors, je vous rejoins, je trouve que le titre n'est pas très heureux. J'ai lu aussi que c'était la manifestation pot-au-feu. Donc, en fait, François Ruffin essaye de faire converger les luttes qui, aujourd'hui, ne convergent pas.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour Emmanuel Macron ?
Je ne crois pas, mais là où je vous rejoins à nouveau, c'est que effectivement, personne ne souhaite que cette manifestation dérape. J'ai effectivement noté que deux services d'ordre serait là pour essayer de contrôler les choses. Et naturellement, la préfecture de police aussi sera totalement mobilisée, ce qu'elle a rappelé d'ailleurs à François Ruffin. Et il est totalement légitime qu'un certain nombre de personnes descendent dans la rue à l'occasion de l'anniversaire. Simplement, on espère tous que ça se passera bien et que cette manifestation ne dégénérera pas.
Valente Saint-Just, j'ai un peu d'inquiétude à avoir.
C'est l'illustration de l'ambiguïté perpétuelle de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. L'ambiguïté, c'est ce qui les caractérise et c'est ce qui se voit vraiment à l'heure actuelle. Le titre « Faire la fête », moi j'ai été choqué dès le départ, parce que moi je dis à quelqu'un que je veux pas, je vais te faire la fête, hein, c'est brutal. Bon, le visuel, la pot-au-feu, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai vu rapidement, je ne me suis peut-être pas trompé, mais on voit un manifestant en train de lancer quelque chose, et évidemment sur les forces de l'ordre. Vous êtes des pompiers pyromanes, en
sur
réalité.
Sur les forces de l'ordre, vous voyez les forces de l'ordre là.
Regardez,
mais vous êtes
vraiment
Madame Irma, vous voyez des choses qu'on ne voit
d'accord,
pas.
D'accord. Non, c'est l'ambiguïté perpétuelle. Cette affiche-là est totalement ambiguë. Je suis très calme, je n'irai pas voir.
On va tout faire. Mais
Sarah
Swaly,
vous pouvez reconnaître qu'il y a volonté quand même d'une forme d'ambiguïté.
C'est une manifestation pacifique. Heureusement qu'il y a des manifestations démocratiques.
Vous les avez même approuvés.
Et
vous
nous leur disons merci aussi de nous protéger.
Et donc toutes vos positions...
Si on vous parle tous en même temps, on vous entend pas.
Je supporte
on va laisser parler Sarah Swaly. Et après,
je remercie les policiers de nous protéger chaque jour. jour.
Oui, oui.
Vous écoutez un peu ce
qu'on... Vous voulez qu'on vous croie.
Si vous ne me croyez pas, si je ne parle pas...
D'autres personnes qui s'expriment à France Insoumise, d'autres attitudes dans d'autres manifestations montrent que vous êtes toujours sur une ligne de crête. Et là, vous vouliez récupérer une espèce de colère. Vous avez été impressionné
parce qu'il s'est passé le 1er mai. On veut converger les luttes. Et d'ailleurs, le 26 mai, il y aura une convergence des luttes.
Et maintenant, vous faites marche arrière et vous dites... Pitié, monsieur le ministre de l'Intérieur.
Non, non, on demande pitié
protéger.
À personne, madame.
Et le ministre, qui n'a rien fait la dernière fois, le préfet de police, alors là, il vous met 2000 policiers. Mmh. Écoutez, c'est presque une mascarade, votre histoire.
Oui, ben, Sarah vous verrez demain, vous verrez la mascarade que fera
quelle est votre opinion des Black Blocs?
Nous les avons toujours condamnés. Je vous rappelle que le 23 septembre, nous avons fait une manifestation et les Black Blocs étaient contre nous. Et d'ailleurs, le préfet de police...
À Sivin, à Notre-Dame-des-Landes, vous n'avez pas forcément
les Black Blocs sont contre Jean-Luc Mélenchon et nous les avons toujours condamnés. Et encore une fois, je suis porte-parole, je condamne les Black Blocs. Vous écoutez ou vous faites un monologue solo, en fait, comment ça se passe? Voilà. Voilà.
C'est pour les besoins de la cause que vous dites aujourd'hui. Hein.
Non, on les a toujours dit et je les ai toujours dit.
Valérie Lacroix.
Moi, je serais intéressée, enfin, on va voir ce que la justice qui va sortir des différentes gardes à vue et des profils des Black Blocs qui sont intervenus mardi. Ce serait intéressant parce que les propos de Jean-Luc Mélenchon, enfin, très sincèrement, étaient quand même très, très provocateurs suite aux manifestations du 1er mai, extrême droite, finalement, je m'excuse, extrême gauche. Enfin, je trouve que c'est quand même pas du niveau de Jean-Luc Mélenchon. Et il nous fait des cinémas régulièrement à l'Assemblée nationale qui, du coup, on est dans une situation qui est quand même qui est pas simple. Et je trouve que son attitude est pas responsable. Voilà. Et à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Et François Ruffin, pareil. Il est toujours dans le spectacle, la caricature. Et rien que le nom de cette manifestation demain, la fête à Macron, enfin, c'est la fête à Neuneu, c'est la fête à qui? Enfin, sincèrement, je trouve qu'on est, on tombe très bas. Et ça donne une très mauvaise image de la France.
Ça donne, une mauvaise image de la France que de laisser ses concitoyens souffrir, crier leur souffrance, et d'être à l'extérieur de la France et de stigmatiser une partie de la population en leur disant c'est à cause de vous que ces violences-là se produisent. On laissera pas Macron nous traiter comme cela.
Va envoyer demain, je sais pas.
Demain, c'est une manifestation pacifique, festive, revendicatrative. Mais vous allez voir.
J'espère.
Est-ce que 4 jours après les événements du 1er mai, cette manifestation est véritablement pertinente compte tenu des violences auxquelles on a assisté?
Est-ce que c'est pertinent d'avoir un président de la République qui vous dit et qui vous stigmatise et qui vous dit c'est à cause de vous que ces violences-là se produisent dans la rue? Non, nous avons toujours condamné les violences. Les violences sont contre notre projet qui est de revendiquer les droits et les droits notamment des salariés, des retraités, des lycéens, des universités et voilà.
Alors, une forme de violence publics. A toujours fait partie aussi de la culture d'extrême gauche. On peut le reconnaître.
Attendez, extrême gauche. Moi, je suis pas d'extrême gauche. Je suis de la France insoumise. La France insoumise, c'est un palais de gauche et il faut arrêter de nous cataloguer dans l'extrême gauche. Je ne laisserai pas dire ça.
Quand il dit que ces violences étaient des violences d'extrême droite, c'est une vraie insoumise. C'est qu'il les approuve quasiment.
Moi, je ne vous ai pas écouté, je n'ai pas entendu vous parler en même temps.
Non, moi, j'ai entendu Philippe Poutou expliquer que la violence était légitime. J'ai entendu François Ruffin expliquer que la violence est moralement était condamnable, moralement n'était pas condamnable, mais politiquement l'était. J'espère effectivement que demain tout se passera.
Vous voulez plus de manifestations, mais il y a d'autres moyens de s'exprimer.
Ah, donc vous voulez quoi en fait, qu'on mette des barricades si on peut pas s'exprimer démocratiquement, pacifiquement dans la rue, en étant festif,
dans l'expression physique?
Donnez-moi pacifiquement sur le plateau de Tout est politique. Il est 21h50. Diane Ferchit nous a rejoint pour l'info.
Le gouvernement appelle au sens des responsabilités de chacun. Chez Air France, à plus de 55%, les salariés ont rejeté l'accord salarial proposé par la direction. Accord sur les augmentations de salaire. La fin de cette consultation coïncidait avec le 13e jour de grève dans l'entreprise depuis février. Et comme il s'y était engagé, le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, annonce sa démission qu'il remettra dans quelques jours. Et à la SNCF, le trafic reviendra progressivement à la normale demain matin. Ce 7e épisode de grève prendra fin peu avant 8h. Cet après-midi, des dizaines de cheminots en colère ont fait fait irruption au siège de La République En Marche à Paris avant d'être délogé dans le calme par les forces de l'ordre. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris rouvrira ses portes lundi après avoir été occupée par des opposants à la réforme de l'accès à l'université. Celle de Paris 8 Saint-Denis restera bloquée jusqu'à jeudi prochain. Le blocage a été reconduit aujourd'hui en AG. À Strasbourg, le président de l'université affirme que certains examens pourraient être mis sous surveillance policière. Hier, 700 étudiants strasbourgeois n'ont pas pu passer leur partiel. La Corée du Nord est désormais à l'heure de la Corée du Sud. Pyongyang s'est aligné sur le fuseau horaire de Séoul, avançant toutes ses horloges de 30 minutes. C'était un engagement du leader nord-coréen Kim Jong-un pris lors de la rencontre des deux dirigeants la semaine dernière. Les deux Corées n'étaient plus à la même heure depuis 3 ans sur décision unilatérale du Nord.
France Info.
21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
Allez, tout est politique, reste toujours sur le même créneau horaire, 21h51, on attaque le dernier thème de cette soirée. Et on va évoquer le voyage d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, si vous le voulez bien. Le président de la République va se rendre demain à Ouvéa, dans la grotte, théâtre il y a 30 ans d'un assaut meurtrier des forces de l'ordre contre les rebelles kanaks qui avaient pris en otage des gendarmes. Une initiative qui fait débat. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs expliqué aujourd'hui à nos confrères de Calédonie la première.
Je pense qu'il est important de regarder cette part de notre passé commun. Et après je le ferai en respectant aussi la part de dissensus. Je veux tout à la fois pouvoir construire cette nouvelle page de notre histoire, pouvoir regarder en face notre passé et le faire en respectant toutes les voies.
Valerand Saint-Just, Emmanuel Macron est bien à sa place dans la grotte d'Ouvéa.
Écoutez, on lui a reproché là pendant cette émission avec votre sondage de ne rien faire ou même peut-être d'aggraver cette fracture entre la France des riches, la France d'en haut et la France d'en bas. Bon, là, les événements... La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire très particulier. Hein. C'est la France. Les événements d'il y a 30 ans ont été extraordinairement douloureux. Alors qu'il y aille, je pense qu'il va le faire de façon délicate, si vous voulez, qu'il y aille dans le but d'essayer de réconcilier là-bas les partis qui existent encore et d'effacer les douleurs. Moi, je suis plutôt pour, je suis plutôt favorable à ce que le président de la République française fasse cette démarche. D'ailleurs, à contrario, il n'aurait rien fait, il ne s'en serait pas vraiment occupé, il n'aurait pas pris un peu à bras-le-corps cette affaire-là pendant son voyage, qu'on aurait pu le critiquer. On va voir ce qu'il va faire exactement, la façon dont il va s'exprimer, les symboles qu'il va utiliser, mais moi, je l'appelle à faire ça dans le cadre de la restauration de la paix et de l'harmonie, si vous voulez, en Nouvelle-Calédonie, est toujours très difficile à trouver.
Valérie Lacroute, vous êtes sur la même ligne que Valerand Saint-Just ?
À peu de choses près, oui, parce que j'ai, de toute façon, c'est l'image du président. On voit bien, il tente beaucoup de choses à l'international. On en a parlé tout à l'heure.
Alors là, c'est pas exactement international, la Nouvelle-Calédonie.
Oui, pardon,
je vous le signale
oui,
quand même.
Excusez-moi, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Mais le fait d'aller,
six
de
mois,
partir,
en tout cas pas.
Voilà, puisque le référendum le décidera au mois de novembre. Quand je dis à l'international, le fait de partir loin du pays, loin de la France, voilà, pas de l'île de la Nouvelle-Calédonie, mais de sortir du pays. Pardon, je me suis un peu mal exprimée.
Oui, là, on sortait un peu les rames, mais on vous a compris.
Non,
c'est toujours le pays.
Oui, mais enfin bon, je sais quand même que la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, je le sais. Voilà, je suis désolée, je me suis un peu mal exprimée. Voilà. En tout cas, il tente, ce que je voulais dire, c'est qu'il tente beaucoup de choses. Et là, il va tenter peut-être une réconciliation. Enfin, en tout cas, d'aller parler de ce sujet qui traumatise quand même et qui a laissé des traces importantes. Pourquoi pas ? Voilà. Après, est-ce qu'il va être très clair dans sa position avant le référendum ?
Ça, il a dit que non. Mais voilà. Gatel, ce voyage est nécessaire à ce moment-là ?
Alors, il est nécessaire et il faut rappeler que Emmanuel Macron est le premier chef d'État depuis 30 ans, chef d'État français, à se rendre en Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même assez symptomatique du fait que la blessure, elle est toujours extrêmement vive, extrêmement ouverte et ça a relancé effectivement beaucoup de souvenirs et de très mauvais souvenirs. Une petite précision, il ne se rendra pas dans la grotte. Il se rendra là où...
Il y a une plaque commémorative.
Exactement. Mmh. Parce que justement, la blessure est toujours ouverte. Je pense qu'il y a un gros travail de réconciliation qui est en cours et qui doit se poursuivre. Moi, je salue plutôt justement cette démarche. Jean-Marc Ayrault avait été le premier aussi chef de gouvernement à se rendre. C'était simplement il y a 5 ans. Et les événements d'Ouvéa datent d'il y a 30 ans. Donc on voit que voilà, la métropole n'a pas encore complètement réussi à cicatriser cette blessure toujours extrêmement forte sur ces territoires.
Sarah Swally.
Oui, il faut éviter de réouvrir ces plaies. Nous le rappelons.
Est-ce qu'il y a un risque là?
Il faut éviter de réouvrir ces plaies. Il y a une paix civile qui a été quand même réussie grâce à l'accord Matignon. Ce miracle de l'accord Matignon après cette tragique histoire de notre pays où, je le rappelle, 19 Kanaks et 4 gendarmes ont perdu la vie, dont certains après reddition. C'est vraiment un événement tragique pour notre pays. Il va falloir que le président... Il y a des écrits, etc. Non. Vous regarderez, voilà. Et l'histoire n'oublie rien. L'histoire n'oublie rien.
Les gendarmes ont tué les gens.
Je ne dis pas que les gendarmes. Je dis qu'il y a des personnes qui sont mortes après la reddition. Vous avez oublié l'histoire. Bon, après, je peux le mettre sur le compte.
Valentin Juste.
Mais c'est vraiment quelque chose.
De jeter des accusations comme ça.
Je ne jette aucune accusation, monsieur. Je rappelle l'histoire. L'histoire est très importante pour savoir où on va. Et c'est l'histoire de notre pays. Et en tant que jeune, je sais d'où je viens.
La croûte. Un mot de commentaire sur vous.
Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que il a raison d'y aller. Après, ce qui est toujours ennuyeux, c'est son côté en même temps il a envie d'y aller, mais on a peut-être aussi envie qu'il prenne position.
Sur quoi voulez-vous qu'il
prenne position?
Vous voulez qu'il prenne position?
C'est terminé pour ce soir, mais l'info évidemment continue sur France Info. Je vous remercie chaleureusement, vous quatre. Je vous passe un excellent week-end à vous et puis aussi aux téléspectateurs et aux auditeurs de France Info.